sport matin dimanche de ce 27 novembre présenté par Fabien Gazot. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. La France est donc déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football. On débriefe la rencontre et le parcours des Bleus avec celui qui a été le consultant foot de Colline, Jérôme Degnaud. Son président Stéphane Viau sera ensuite avec nous. Tout va bien pour le FC Bressuire, de nouveau vainqueur hier soir en Régional 1 de Ligue UG 2-0. On découvrira ensuite le futsal, une discipline spectaculaire qui faisait l'objet d'un événement vendredi soir à Nueil-les-Aubiers avec la meilleure équipe française du moment. En basket, Cholet est inarrêtable. Retour en long, en large et en travers sur la victoire hier après-midi face à Gravelines Dunkerque, 76-64. À suivre, bien sûr, tous les résultats des sports co. Et puis, comment ne pas saluer la nouvelle perf d'Olivier Vergnaud. Le bassiste est devenu le week-end dernier champion de France du marathon dans la catégorie Master 4. On s'est entretenu avec lui entre deux footignies.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le football donc pour commencer ce matin avec le mondial évidemment et cette équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire contre le Danemark 2-1 avec un doublé de Mbappé qui a libéré les Français sur un service de Griezmann. Une victoire méritée après une partie bien maîtrisée où les Danois ont rarement inquiété Hugo Lloris. On avait envie de débriefer cette rencontre avec un technicien et on a fait appel ce matin à Jérôme Degnaud. Bonjour Jérôme.
Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous.
Alors je rappelle que si cette saison tu as retrouvé un costume d'entraîneur auprès de la réserve du FC Bressuire, tu as été le consultant de Colline pendant quelques saisons pour les rencontres des Chamois. Alors Jérôme, bravo, hein, parce que je t'avais demandé un prono hier avant la rencontre et tu m'avais dit 2-1. Les Bleus ont confirmé hein, qu'ils sont vraiment bien rentrés dans ce mondial.
Oui, c'est vrai, alors j'ai eu un peu de chance hier, ça c'est jamais facile de pronostiquer le bon résultat avant un match. En tout cas, c'est vrai que les Bleus ont confirmé, je dirais, la bonne prestation qu'ils avaient réalisée contre l'Australie, surtout la deuxième mi-temps. Donc hier, ils ont fait un match complet, donc ils ont eu du mal à ouvrir le score, mais à partir du moment où ils ont ouvert le score, après le match s'est décanté, c'était beaucoup plus facile pour eux. Et je dirais, la victoire est logique hier contre Danemark. Bon, on a la chance dans cette équipe de France d'avoir des joueurs de talent à l'image de Kylian Mbappé qui a encore marqué 2 buts. Donc voilà, c'est dire quand même la qualité de cette équipe.
Alors tous les feux sont au vert là. On a une attaque avec une bonne animation offensive. Le milieu s'affirme. Derrière, les choix sont pour l'instant payants. Vraiment, tout va bien.
Hein. Alors oui, je mettrais quand même un petit bémol. Moi, je suis un petit peu. J'attends de voir quand même au niveau défensif. Hein. C'est moi un petit peu cette partie-là qui m'interpelle aujourd'hui. J'attends de voir cette défense face à une équipe de meilleure qualité, parce qu'aujourd'hui, donc, ils n'ont joué que l'Australie, même si le Danemark était un petit peu plus fort. Mais bon, je pense qu'il voilà, il faut encore attendre, voir un petit peu les oppositions à venir, hein, puisque quand même Didier Deschamps a fait 3 changements en défense hier, Varane, Théo Hernandez et puis Koundé, hein, qui ont remplacé Lucas Hernandez, Konaté et Pavard. Donc voilà, je pense que c'est une défense quand même qui se cherche un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec le milieu de terrain et surtout l'attaque, on a quand même du potentiel hein, pour mettre en difficulté donc les défenses adverses. Donc ça, c'est quand même intéressant pour un sélectionneur.
Varane a semblé pas mal, hein, bien de retour, pas vraiment gêné par sa blessure, hein, visiblement.
Oui, mais il faut être vigilant hein, puisqu'il a quand même observé, je crois, il y a 5 à 7 semaines d'arrêt de complet. Donc c'est difficile après de revenir au top dans une compétition qui est quand même très exigeante. Mais je pense que Didier Deschamps va bien le gérer. Hein, il a fait jouer 75 minutes. Je pense qu'il va le faire souffler le prochain match et puis le remettre en huitième de finale. Donc voilà, mais c'est vrai que ce joueur est important au niveau de la défense centrale de l'équipe de France. Donc voilà, il faut préserver toutes ses forces pour pouvoir, pour qu'il soit au sommet de sa forme, je dirais, en huitième de finale.
Alors effectivement, difficile de juger Jules Koundé. Hein, hier, c'était le grand changement avec ce choix assez fort hein, de remplacer Benjamin Pavard. Difficile oui, de le juger, il n'a pas été mis vraiment sous grande pression.
Non, c'est sûr, mais c'est vrai que Pavard avait eu un match compliqué hein, contre l'Australie. Donc je pense que Deschamps a eu raison de changer ce poste-là et mettre Koundé qui avait fait des bons matchs aussi amicaux avec l'équipe de France. Alors c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, il a pas quand même été mis en difficulté, je dirais, sur le plan défensif. Sur le plan offensif, il a essayé d'amener un petit plus également. Donc voilà, maintenant aussi, il faut attendre de voir sur les prochaines rencontres, hein, si aussi il reste titulaire, voir comment il va se comporter. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a de la qualité, qui a aussi de l'expérience. Donc voilà, c'est aussi intéressant de le voir évoluer à ce poste.
Alors, autre style à gauche, Théo Hernandez, il apporte vraiment beaucoup à cette équipe de France-là.
Ouais, c'est un joueur, on connaît son potentiel. C'est surtout un joueur qui a vocation offensive, même si c'est un défenseur. Il aime bien aussi amener le surnombre. Après, il faut être vigilant, c'est par rapport à l'équipe de l'équipe, quand l'équipe a le ballon, puisqu'il faisait être vite vers l'avant. Donc voilà, c'est. Après, sur les phases de transition, il faut qu'il soit aussi défenseur, parce qu'il est défenseur avant tout. Donc c'est là qui pêcherait un petit peu. Voilà, mais en tout cas, Didier Deschamps l'a bien recadré par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il a fait un bon match contre le Danemark, hein, suite à la bonne montée qu'il avait fait contre l'Australie. Voilà, donc c'est aussi un joueur qui a un profil intéressant pour l'équipe de France, surtout dans ce système en 4-3-3. Quoi.
Alors, on s'inquiétait un peu pour le milieu et avec un Griezmann qui a reculé un peu et puis un duo Rabiot-Tchouaméni qui fonctionne bien. Finalement, ce milieu, il est performant. Hein.
Oui, tout à fait. Moi, je suis très content de la prestation sur les deux rencontres pas de Tchouaméni, mais j'ai oublié les anciens parisiens, de Rabiot.
Rabiot. Hein,
qui, pour moi, j'avais trouvé que contre l'Australie, il avait fait une première mi-temps un peu difficile. Après, il était bien monté en régime. Et ça, pour moi, c'est la bonne surprise de ce milieu de terrain. Avec Tchouaméni, en plus Rabiot c'est quelqu'un quand même qui aussi se projette vite vers l'avant et avec son gabarit il est aussi dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il s'est procuré quelques occasions sur les deux rencontres, donc voilà, il fait vraiment un très bon un début de mondial à l'image, je dirais, de ses prestations avec son équipe en Italie. Donc voilà, c'est quand même un joueur, bon, il a quand même aussi de l'expérience, hein, puisque c'est un petit moment qu'il est en équipe de France. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'il est devenu un petit peu le leader aussi de cette équipe avec Loris et Mbappé, donc c'est bien pour l'équipe de France.
Alors est-ce qu'il faut faire tourner pour le troisième match face à la Tunisie ?
Ah oui, pour moi c'est essentiel, hein. La chance qu'a l'équipe de France, c'est qu'elle est qualifiée dès ce deuxième match, donc il est important de faire souffler certains joueurs, hein, les joueurs cadres qui ont joué les 90 minutes. Ça va permettre aussi de faire entrer de nouveaux joueurs et aussi de les mettre sous pression aussi dans cette Coupe du Monde. Et puis voilà, pour les huitièmes de finale, ça permettra d'avoir un 11 compétitif d'entrée de jeu qui sera bien reposé. Donc voilà, il est important de faire souffler une majorité de joueurs pour cette troisième rencontre, ça c'est sûr.
Bien, parfait. Merci à toi Jérôme. On pourrait en parler bien longtemps de ce mondial, mais on va en rester là pour ce matin. On a le président, hein, ton président du FC Bressuire qui nous attend pour débriefer la rencontre de Régional 1 d'hier soir. Donc on va te laisser. C'était un plaisir, hein, de débriefer avec toi ce matin, Jérôme. À bientôt.
Merci Fabien, à bientôt, au revoir.
Jérôme Degnaud, notre ancien consultant foot, hein, mais évidemment toujours avec un œil aiguisé sur le parcours des Bleus ce matin. On continue avec le football amateur, quoi qu'en national, on est pro. Cholet a remporté sa rencontre à Saint-Brieuc vendredi soir avec un doublé de Fatar 2-1. En national 2, les Herbiers ont fait un nul à Romorantin de partout, les Herbiers réduits à 10 pendant quasiment toute la rencontre. En national 3, Nouvelle-Aquitaine, les résultats, Libourne a battu le Stade Poitvin 2-0, Anglette a dominé Neuville 2-0, Châtellerault a battu Guéret 4-1, Chauvigny a dominé Pau 5-1, Lèche Cap-Ferré Bordeaux 0-0, Stade Montois a battu par Niort 3-0. On joue également ce week-end le cinquième tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Foot Sud battu par Niort Saint-Florent 1-0 et Chiré-Saint-Gelais vainqueur à Chasseneuil-sur-Bonnieur 5-1. FC Autise se qualifie face à Oléron 3-0. Montcoutan vainqueur à Gatifoot 2-0. Périgny vainqueur à Effre 2-0. Vrine vainqueur après la séance de tir au but à Rouillé. Cet après-midi à l'affiche Aubin-Horten-Noyer, Portugais de Cerizay à Château-Larcher, Sud-Gâtine à Colombier, Val-de-Boutonne à Courson, Chanteloup-Cour-les-Chapelles face à Nintré, Avenir 79 sur le terrain des Portugais de La Rochelle, Pays-Mélois face à Onis, Saint-Cerbouillet contre Saint-Savin, Saint-Sauveur face à Migné-Auzance, Terve à Turé-Besse, Venise Verte contre Mosée-sur-le-Mignon, Vic-sur-Gartempe, Pinter-Bocage et puis Ivrère-Saint-Léger, Clazet-Bocage. On joue également ce week-end en Régional 1, Busserolles a battu Niort-Saint-Liguer 3-2. La Rochelle a dominé Parthenay 3-1, Rochefort a battu Poitiers 3-0, Saint-Jean-d'Angély a battu Thouars 3-1, Choret a dominé Royan-Vaux 4-1, et puis Bressuire a battu Ligugé sur le score de 2-0. On accueille maintenant Stéphane Viau. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Président du FCB qui a donc battu Ligugé 2-0. Il y a peut-être moins de monde que d'habitude au stade. Hein. Hier soir, le match de l'équipe de France était à peine terminé. Et d'ailleurs, les buts bressuirais ont été inscrits en début de match, hein, hier soir.
Bah effectivement, je pense que l'affiche France-Danemark était très importante aussi pour l'équipe de France. Et c'est vrai que les tribunes étaient un peu parsemées en ce début de rencontre.
Donc ça s'est décanté assez rapidement, hein, hier soir avec un but dès la sixième minute pour vous. Hein.
Oui, on savait une équipe de Ligue 1 assez difficile à manœuvrer avec une base défensive assez rude. On a fait une très très bonne entame de match où on a pris le score dès la sixième et puis on a doublé après dans cette première partie, ce qui nous a permis de gérer quelque part, mais peut-être avec une légère insuffisance sur cette deuxième partie de rencontre notamment.
Alors, il y a toujours des exigences, on veut toujours faire mieux, mais quand même, sur ce début de saison, on est là où on voulait être, même peut-être même encore un peu mieux, parce que après 9 rencontres, je crois qu'il y a 8 victoires et un match nul, donc forcément, on est satisfait.
Ouais, bien sûr, on va pas faire la fine bouche, on fait un très bon début de saison, quasi parfait. On est là où on voulait, certainement un peu mieux que ce qu'on l'espérait, mais en tout cas, le groupe... a répondu présent à nos attentes, l'arrivée d'un nouveau coach, deux nouveaux coachs aussi, avec Patrick Olive et Jérôme Dionneau et l'ensemble du staff. On fait un travail de qualité dès ce début de saison. Maintenant, il faut rester humble. Les matchs allés sont pas finis, il nous reste des grosses rencontres encore à jouer.
Et puis il y a cette équipe de Choret qui suit à peu près le même parcours que vous, qui a encaissé son premier but hier, hein, après 7 rencontres pour les Choraisiens. Ils sont assez impressionnants aussi. On se dirige vers un duel là dans ce championnat de Régional 1.
Moi, je sais pas si ça sera un duel. En tout cas, il nous reste 4 rencontres avant la fin des matchs allés. Effectivement, on va à Choret qui est un prétendant, bien évidemment, qui a de la qualité, qui a fait un très beau parcours en coupe. Bon, ils ont aussi 2 matchs de retard. Ça sera pas un tournant, mais ça sera un match important début décembre.
Début décembre, hein, donc pour ce match à Choret, la date, parce que là on va cocher sur l'agenda.
Alors on reçoit Buxerolles samedi prochain à Métayer et on se déplace à Choret le 10 décembre.
Bien, alors il faut quand même veiller, oui, à ce que ça soit pas non plus une finale et se mettre trop de pression, hein. C'est un peu le danger face à ce type de rencontre.
Oui, évidemment, non, je pense que le staff a la tête sur les épaules pour faire en sorte de gérer les étapes les unes après les autres. Et d'abord travailler pour la prochaine séance samedi prochain avant de penser aux autres. Bon, on vient de subir deux blessés sur 2 matchs précédents. C'est vrai que ça nous pénalise, mais à nous de répondre présent avec l'ensemble du groupe.
Merci Stéphane Viau, président du FC Bressuire. Bon dimanche.
Merci, bon dimanche.
Il manque juste un résultat en Régional 1, puisque c'est cet après-midi que Noyers-Biez accueille Montmorillon, donc à partir de 15h sur le stade de Noyers-Biez. En Régional 1 féminine, ça joue également cet après-midi pour Bressuire contre Limoges. Un mot sur le troisième tour de la Coupe des Deux-Sèvres, juste avant de marquer une pause pub. Quelques matchs hier soir déjà dans ce troisième tour. Châtillon-Pompère a battu Fenouarterre 5-2. Chiché s'est qualifié à Fort 3-1. Louzy s'est imposé également à l'extérieur à la Crèche 1-0. Et puis Beaulieu-Breuil se qualifie sur le terrain de Périgny 3-1. Les affiches de cet après-midi, Effre-Le Talus pour un duel de réserve. Auger-Azet contre Brion. Bessines à SPTT contre Saint-Martin-les-Mels. Bressuire contre Buslore. Le CLNCB contre Hervaux-Saint-Join. Brulin accueille Cerizet. Le Pays-Mélois à Cherveux. Saint-Sauveur à Clusset. Coulonges-Touarçais accueille Chandonnier-Pamply. Échiré-Saint-Gelais contre Frontenay-Saint-Symphorien. Lezay-Montravers, Montcoutan-Saint-Serbouillet. Mougon, FC Comore. Niort-Sainte-Pezenne contre Choret. Pays-Argentonnais contre Beauvoir. Romaine contre Selverine. L'Apsilarjas Moutier sous Chantemerle contre Saint-Varan, Souchet contre Pays Tenzéen, Thouars contre Noyers-Biez, l'US Vergentonès contre Saint-Amand-sur-Sèvre, Vouillé face au FC Boutonnais et Voulmentin-Saint-Aubin contre Val. Une parenthèse futsal donc dans cette édition avec un retour sur l'événement organisé vendredi soir à Noyers-les-Aubiers. Le club et la ville organisaient une soirée futsal, une journée même avec pas mal d'animations pour les scolaires en journée. Le clou de la journée, c'était le match de gala le soir entre Laval et Nantes. Doulon, Laval est la meilleure équipe française du moment en Ligue 1 et Nantes évolue en D2 dans les rangs lavallois, figure des internationaux à l'image de Mohamed Abdesamad, ravi de pouvoir faire la promo de son sport.
Ouais, c'est vrai que c'est une discipline qui a toute sa place en France et voilà, nous on est internationaux, on se doit de donner aussi une bonne image. Forcément on est content et ça fait du bien de voir d'autres régions, de faire découvrir la pratique à d'autres. Peut-être que ça va peut-être changer des a priori ou donner l'envie aux enfants de jouer, mais il n'y a que du bénéfice à faire du futsal, donc top.
Mohamed Abdesamad n'est pas le seul international français dans les rangs lavallois. Son coéquipier Louis Marquet aussi. Il nourrit des ambitions avec son club, mais aussi en sélection, comme il l'a dit à Sébastien Beaujeau.
Avec le club, ouais, c'est d'aller au play-off, donc dans les 4 premières places. On est bien parti, mais il faut rien relâcher parce que le championnat est très difficile. Il n'y a pas de match facile, il faut être rigoureux à tous les moments. Donc on va performer le plus possible, on va travailler pour avoir le plus de résultats possible. Et à la fin, on aimerait faire les play-offs pour pouvoir jouer le titre. Et puis ouais, avec l'équipe de France, c'est bien entamé aussi. On a eu une bonne performance à Laval contre la Norvège, et puis on a été aussi accroché le nul en Serbie, ce qui était une bonne opération. Et puis y a les matchs retour, et puis ouais, on espère se qualifier pour le prochain tour, pour les qualifs de Coupe du Monde.
En tout cas, cette soirée futsal à Noailles-les-Aubiers a permis de découvrir cette discipline en vogue dans une salle de la ronde parfaitement adaptée, comme le soulignait d'ailleurs le président du club de Noailles-les-Aubiers, Franck Proust.
On a vu un bon match. Moi, je découvrais un peu aussi le futsal. J'ai trouvé très technique, très rapide. Ouais, c'est très bien pour le club, en tout cas, de faire découvrir ici même Noailles-les-Aubiers, effectivement, avec la collaboration de la mairie et de partenariat.
Et évidemment, la salle se prêtait à l'égard très bien pour ce genre de discipline.
Ouais, il y a une salle de sport qui s'adapte bien à ça, et toute neuve, hein, parce qu'elle a presque 3 ans, tout bien, tout ça. Donc, voilà. Belle soirée, en tout cas.
Voilà, propos recueillis par Sébastien Beaujot, vendredi soir à Noailles-les-Aubiers. On passe au basket et Cholet a battu Gravelines hier après-midi, 76-64. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur Colline avec Vincent Nori et François Larue hier après-midi. 7e victoire de rang pour les Choletais, inarrêtables dans ce championnat Betclic Elite où ils occupent une place de leader avec Boulogne-Levallois. Cependant, rien n'était fait à la mi-temps puisque les nordistes qui ont changé d'entraîneur cette semaine menaient à 30-31. Mais Sébastien Devos, le coach intérimaire, reconnaissait les qualités de l'adversaire choletais.
Tout le crédit aussi à Cholet qui joue un basket d'un très très bon niveau et qui s'est construit une forme de confiance. À partir du moment où on fait 2-3 erreurs, on est revenu très très vite dans le doute. À partir du moment où ils ont réussi 2-3 actions, ils sont partis très très haut sur la confiance.
Mais la confiance ne suffit pas, il a aussi fallu de la volonté. Laurent Villa, le coach choletais, a vraiment apprécié ce qu'il a vu hier après-midi.
J'ai vu des joueurs fatigués mais se battre. Et je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Parce que c'était vraiment un match piège et Gravelines était venu là avec de grosses intentions. Et ce qu'on a été capable de produire en deuxième mi-temps, malgré toutes les péripéties avant match et pendant le match, c'est vraiment tout à leur honneur.
Un Cholet sûr de ses forces qui a donc pris le dessus avec des hommes forts qui changent au gré des rencontres. Hier après-midi, c'était Patton et Curier. 18 points en 13 minutes pour ce dernier. Écoutez ce que disait justement Gaylor Curier à propos de l'adresse qui a fui des joueurs comme Campbell et Artis hier.
L'adresse, ça fait partie du basket, ça va, ça vient. Je suis le premier touché, en tant que shooter, je sais très très bien ce que c'est. Donc il faut pas qu'on compte que sur ça. Je pense que quand on sait qu'il n'y a pas forcément l'adresse, il faut qu'on revienne à des choses simples et qu'on essaie de s'appuyer les uns sur les autres. Et on l'a pas mal fait, mais je pense vraiment par rapport au potentiel de cette équipe qu'on peut faire encore mieux. Et voilà, c'est un peu le côté perfectionniste que j'ai, mais je suis très très satisfait quand même de ce qu'on a produit ce soir et de l'équipe.
Des Choletais très bons sur le parquet et très intéressant devant les médias. C'est le cas aussi de Boris Dalot, calme et serein dans son rôle de capitaine.
On a une équipe où on n'a pas de stars, de joueurs, où on peut vraiment s'appuyer dessus. On peut s'appuyer sur tout le monde, la menace peut venir de partout. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait notre force, tout le monde le sait. Et voilà.
Avec un rôle de capitaine qui est hyper important et qui, on voit bien, quoi, vous êtes important avec ce brassard-là.
Ouais, c'est mon rôle de fédérer, de faire le lien entre ce que le coach veut transmettre et les joueurs. J'ai une bonne relation avec Laurent, ça se passe très bien, donc voilà.
Vous êtes content?
Ouais, forcément, et s'il y a une victoire, c'est cool. Franchement, on continue à jouer correctement et à engranger les victoires, et tant mieux, il faut pas avoir trop d'excès de confiance, ni trop ne pas être trop bien si c'était une défaite, et voilà, rester constant dans nos émotions et continuer à bosser.
Boris Dalot déjà focus sur le match de mardi face au Bulgare de Rilski qui doit permettre d'aller voir plus loin dans cette FIBA Eurocup après les fêtes. Cholet Basket ne s'enflamme pas donc en interne. Voyons voir maintenant ce qu'en disent des observateurs privilégiés comme Papsi présent hier soir à la Meilleraie puisqu'il a joué dans les deux clubs.
Ouais, au troisième carton, je pense que Chola était beaucoup plus rigoureux dans l'exécution offensive. Et après, il se projette très très vite vers l'avant. Ça a déstabilisé Gravelines et ça a fait la différence.
On a une belle équipe de Cholet, vous suivez forcément ce championnat. Elle est belle, hein?
Elle est belle, elle est solide et on sent que la mayonnaise a pris. Donc voilà, ça donne envie de voir ce que ça va donner en deuxième phase.
Petit pincement au cœur de voir cette rencontre, Pape?
Forcément. Quand on voit l'ambiance qu'il y a ce soir, le match qu'ils nous proposent, on a envie d'être avec eux.
Ouais, vous auriez aimé le jouer ce match. Hein.
Ouais, évidemment, mais il faut savoir aussi en profiter. Et puis voilà, place à la jeunesse.
Le sympathique Papsy au micro de Vincent Nori hier soir. Vincent qui a également tendu le micro à Michel Léger, le président fondateur de Cholet Basket, qui salue la cohésion de cette équipe.
Pas une bonne cohésion, l'équipe a été bien faite, bien construite. Pas forcément avec des grandes vedettes, mais des joueurs qui étaient prêts à jouer ensemble.
Une équipe qui peut aller loin?
Moi je la situe 4-5e place. 4-5e place en championnat, je pense. Et ce qui veut dire se qualifier pour une bonne Coupe d'Europe l'année prochaine, quoi.
Avec ce public qui répond toujours présent.
Ah ben ça, c'est la force de Cholet. Ça a toujours été comme ça. La salle est pratiquement toujours à peu près pleine.
Michel Léger, président fondateur d'un CB qui fait son retour au premier plan cette saison. La suite, c'est donc mardi en FIBA Eurocup. En Pro B, La Rochelle a battu Denain 78-69. Angers s'est incliné à Boulazac 109-102. Et puis Nantes s'est incliné à Chalon-sur-Saône 73-70. Les résultats en handball maintenant en National 1 féminine. Mokoutan revient de Bergerac avec une victoire 41-34. En National 1 masculine, Pouzauge défait à Vernon-Saint-Marcel 29-28. En N2 féminine, ça va toujours aussi bien pour la réserve selloise, vainqueur de Châteauneuf en Timray 28-20. En National 3 féminine, Lezay vainqueur à Grand Poitiers 25-20. Praeg joue cet après-midi à La Rochelle. Et puis en National 3 masculine, l'entente Lezay-Sel a encaissé 50 buts à Mayenne-Huisserie, défaite 50-29. On imagine que le coach est vraiment mécontent après cette rencontre. C'est rare de voir 50 buts encaissés dans un match de hand. En volley, ça joue cet après-midi pour les Pexinoises face à Caen et pour les Pexinois également en N2 cet après-midi en déplacement par contre à Chartres. Un mot de tennis avant de marquer une petite pause pub. Sachez que Bressuire s'est incliné hier à Loun Plage sur le score sans appel de 5-1. Seul Jonathan Essery qui a marqué un point pour les Bressuirais en simple, mais pour le reste ça a été compliqué. Première défaite après trois journées pour les tennismen Bressuirais. Le rugby, le top 14, La Rochelle n'a pas fait de détails hier soir face à Castres. Victoire 53-7 pour les Maritimes. En National 2, match au sommet cet après-midi pour les Niortais. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression à propos des rencontres du Niort RC cette saison, mais c'est très serré en haut de ce championnat de National 2 avec trois équipes à 30 points. Niort, Auch et Périgueux. Saint-Jean-de-Luz est à 29 points et c'est donc un menu périgourdin qui attend les rugbymen de Sévrien cet après-midi. Bertrand Casamayou aborde ce match avec gourmandise, comme l'a indiqué le co-entraîneur en conférence de presse cette semaine.
On est très excités de pouvoir aller jouer contre Périgueux, voilà, qui sort d'une belle victoire à l'extérieur contre Marmande, même si elle s'est décidée sur la fin. Voilà, ils ont gagné à Marmande, alors nous on n'a pas réussi. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, ça va être c'est un match important. Maintenant, on sait que la tâche va être très compliquée. Périgueux, c'est une belle équipe qui tourne bien avec de fortes individualités et un collectif qui s'organise autour de ces individualités. Donc, si on est capable de faire un résultat là-bas, ça sera une très belle performance et une belle réussite pour nous. Maintenant, on sait que la tâche va être très compliquée et qu'il faudra qu'on soit à 100% sur tous les domaines.
Bertrand Casamayou avant ce Périgueux à Niort cet après-midi. En National 2, en Fédéral 3, Chorey joue à Chinon et Parthenay se déplace à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine dans la région nantaise. En R2, Nouvelle-Aquitaine, Le Cob 79 sur le terrain de Niolles-l'Espoir. En R2, Pays de la Loire, Thouars accueille Pornic. Et puis en Régional 3, mêle contre l'entente niortaise alors que Saint-Mexant joue sur le terrain de Silver Fox. En athlétisme maintenant, on s'autorise un petit flashback dans cette émission avec un retour sur un événement du week-end passé. Le titre glané par Olivier Vergniaud, le bassiste, a remporté à Deauville le titre de champion de France du marathon dans la catégorie Master 4. En avril, l'athlète de 54 ans avait été titré sur le 10 km. Joint en milieu de semaine, il avait déjà bien récupéré et même repris l'entraînement. Infatigable Olivier Vergniaud.
C'était un de mes gros objectifs de l'année. En plus des, bien sûr, des crosses que je m'étais fixé en début d'année, les crosses, le 10 km, le semi, et puis on finissait donc la saison par le marathon. Donc voilà, c'était l'objectif pour moi le primordial, vu que c'est ma distance que privilégiée pour moi-même. Après voilà, même le cross, je n'ai ni poil les crosses ni les autres distances, mais voilà, j'ai fait j'ai pris l'option de faire les 4 championnats de France cette année. Voilà, c'est maintenant la saison se termine.
Ça veut dire que tout ce que tu réalises avant, c'est avec ce marathon en tête finalement?
Ouais, tout à fait. Et puis après, c'est la préparation du cross préparé pour le 10, le 10 préparé pour le semi. Ça tombait bien cette année, et le semi préparé pour le marathon avec une petite coupure d'une semaine entre les deux. Et sinon, c'était ciblé pour pouvoir arriver au marathon en forme.
Ce titre de champion de France dans la catégorie Master 4, est-ce que tu savais que c'était atteignable ou est-ce que c'était difficile de jauger les forces en présence, les adversaires?
Par rapport aux inscriptions, je savais qu'on était 6 ou 8 à pouvoir postuler au podium. Je me cache pas que j'ai envisagé bien de pouvoir aller chercher cette médaille. Après voilà, c'est le marathon, c'est quand même, on sait pas la forme du jour, la météo. Après on s'est rendu compte que la météo ça allait pas être exceptionnel, chose pour moi qui pouvait poser problème étant donné que le froid vis-à-vis de mes sensations, c'était pas le top. Mais bon, non, on a pas eu à crier, on a eu un peu de froid c'est sûr, pas énormément, un peu de vent. Et on a eu 12 minutes d'eau pendant le parcours qui m'a vraiment par contre tétanisé au niveau du reste de la course. Mais bon, on s'attendait même à pire que ça, donc voilà. Je fais 2:42:35 et puis voilà, je m'étais fixé un objectif de un petit peu moins de 2:40. Je partais sur des bases, je pensais être capable de faire 2h38. Après bon voilà, j'ai tenu mes chronos jusqu'à ce que les trompes d'eau nous saisissent musculairement, et puis c'est vrai que ça a été compliqué sur la fin. Mais bon, après, je voyais que je pouvais cibler pour la place, donc je savais que j'étais encore en tête. Tout en sachant que derrière, ça revenait de 40 secondes, je suis passé à l'arrivée avec 20 secondes d'avance sur le deuxième, donc c'était chaud.
Ce titre de champion de France, ça vient ajouter une ligne au palmarès, hein, Olivier?
Ça fait une ligne supplémentaire. J'avais déjà eu le championnat de France de marathon, c'était en 2018, donc à Albi. Mais je tenais encore à refaire une médaille d'or sur celui-là. Donc voilà, c'est le but atteint, j'ai fait ce que je voulais faire.
Alors est-ce que l'objectif 2023 sera justement de défendre ce titre, ou tu auras des objectifs complètement différents la saison prochaine?
Bah pour l'instant, j'ai pas ciblé exactement ma saison complète. Hein. Je sais que je vais repartir sur les crosses, donc les crosses vont débuter bientôt. Ma saison est quasiment finie, et puis après je m'adapterai en fonction de. Les dates sont pas vraiment sorties. Je sais que le France de 10 normalement serait à Houille en mars. Et après, je sais pas, on n'a pas les infos concernant le semi-marathon et marathon pour la suite de la saison. Je me suis reposé 2 jours et puis voilà, hier soir c'était footing et puis là c'est reparti. J'envisage normalement de faire un 10 km rapide dans 15 jours. À voir si les gens me répondent d'ici la semaine prochaine.
Bon, finalement tu as besoin de ça, les coupures très peu pour toi finalement, sauf quand on est blessé.
Ouais, très peu, très peu. Ouais, voilà, c'est quand on est blessé, on n'a pas trop le choix, mais bon, c'est avec. J'ai la chance de pas trop connaître la blessure, donc c'est vrai que j'optimise beaucoup sur la course, et puis tout pendant que la tête commande, on y va.
L'insatiable Olivier Vergniaud, champion de France du marathon, dans la catégorie Master 4. Il apporterait sans doute un excellent témoignage lors de la conférence proposée vendredi soir prochain par la ville de Bressuire en partenariat avec l'association Motivé Tout Terrain. Une conférence intitulée « Sport et motivation » en présence de Pierrick Livenet, préparateur physique et mental, Julie Chupin, athlète paralympique en tir à l'arc, et Carmen Boucourt, capitaine du SAM Handball en National 1, qui joue encore à plus de 50 ans. Des échanges animés par le GDOS des Deux-Sèvres sur le volontariat aux Jeux de Paris 2024 seront proposés en plus de la conférence ce vendredi donc 2 décembre à 20h, ouverture des portes à 19h30. Ça va se passer au cinéma Le Fauteuil Rouge à Bressuire. L'entrée est à un prix libre et tout ceci au profit du Téléthon. C'est donc pour une bonne cause également. Voilà pour ce sport matin dimanche.